Et si déployer autrement notre attention, notre souffle, nos mouvements, nos états de conscience pouvaient renouveler nos relations au vivant et au réel? Et si, face au dérèglement climatique, à ses impacts sociétaux et sanitaires, aux militances que ceux-ci peuvent générer, la resensibilisation pouvait être une voie politique? Être resensible. Je suis Mélanie Jouenne. Je suis autrice, conseillère artistique, je pratique et transmets les techniques du corps, du souffle et de l'attention issues du yoga, et je suis membre du collectif de la Turbine. Ensemble, nous avons imaginé être ressensibles, en écho à nos recherches, à nos expériences, au croisement des arts, des sciences, de l'écologie, pour renouveler et incarner d'autres imaginaires. C'est une invitation à entendre des artistes, des chercheuses, des citoyens et des citoyennes qui œuvrent avec ce que nous nommons le sensible. Par sensible, nous entendons la manière dont, à travers l'activation de nos sens, nous nous relions au monde dans une communication permanente, mais aussi la façon dont les événements extérieurs imprègnent les corps et la façon dont on peut s'incarner dans un monde en mutation. Ce sont 4 épisodes pour éprouver nos puissances d'agir, pour tenter de faire corps, individuellement et collectivement, autrement. Être ressensible, une série sonore en 4 épisodes, produite par le collectif de La Turbine, avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, écrite et mise en voix par Mélanie Jouenne, co-réalisée avec Julia Passo et Sofia Pavanini au montage.
Si j'étais un oiseau, je survolerais les villes, je survolerais les campagnes, les parkings.
Épisode 1, l'attention.
D'autres parkings, des monuments.
Ce que je vois me cache ce que je ne vois pas. Cette phrase de l'artiste Joanne Le Guilherme, entendu il y a quelques années, m'a fait réaliser que mon attention est biaisée. Pourquoi est-ce que l'on voit ce que l'on voit? Est-ce qu'on peut s'entraîner à percevoir ce qu'on ne perçoit pas au premier regard? Et avant toute chose, quelle définition accorder aujourd'hui à l'attention? Ces questions m'amènent à interroger comment affranchir l'attention des captations médiatiques et sociales, ou plutôt si l'on peut faire avec, pour tenter de saisir avec acuité les enjeux du monde. En 2012, Yves Citon, chercheur, philosophe et professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8, publiait « Pour une écologie de l'attention ». Je l'ai interrogé sur sa définition de l'attention et il m'a répondu
« Je ne sais jamais comment définir l'attention si ce n'est comme une sorte d'interface entre nos capacités de perception, de sensibilité et ce qu'il y a ou ce qui a été apporté autour de nous. Et cette définition de l'interface qui mentionne ce qui a été apporté autour de nous, elle met tout de suite en question des problèmes de distance, des problèmes de médiation, à savoir qu'il y a des choses qui sont très très loin. Aujourd'hui, on est en train de parler alors qu'il y a une guerre au Moyen-Orient et on voit tous les jours des souffrances, en l'occurrence de Palestiniens, alors qu'ils habitent à des milliers de kilomètres de chez moi. Et pourtant, ça obsède littéralement mon attention. Donc mon attention, c'est ce que je suis en train de regarder maintenant, par exemple un arbre dont les feuilles sont en train de changer de couleur très très lentement. Et il y a des choses qui viennent à moi, comme des nouvelles d'un bombardement à Gaza, où j'ai aussi décidé un petit peu d'allumer quelque chose comme une radio, par exemple. C'est le son de la radio qui m'apprend quelque chose sur Gaza. Et en même temps, une fois que j'ai allumé ma radio, ce qui m'arrive, que ça parle de Gaza, de l'Ukraine ou de l'Éthiopie, là, je ne le contrôle pas directement. Et c'est tous ces interfaces, justement, qui ont beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. On peut parler de médias, ou on peut parler d'intermédiaires, qui font la complexité, la richesse, les problèmes de nos attentions contemporaines, qui en général sont davantage orientées vers ce qui nous vient d'écrans ou d'appareillages, ça peut être des écrans, des radios, des télévisions, des téléphones, que les feuilles qui sont en train de devenir rouges dans l'arbre que je vois maintenant. Et finalement, cette attention-là, elle prend de moins en moins de place dans nos expériences. Si on compare ce que c'est qu'être un être humain en 2023 ou 2024, par rapport à ce que ça pouvait être en 1750 ou à l'âge des Romains.
Alors, qu'est-ce qui fait que l'on voit ce que l'on voit ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans ces différents registres ou modalités attentionnelles, il y a des choses qui s'appellent des saillances. On définit une saillance comme quelque chose qui apparaît dans mon champ olfactif ou visuel ou auditif que je ne peux pas ignorer. C'est clair que s'il y a une sirène de pompiers qui passe dans notre champ visuel, on va regarder, on va être accaparé par la sirène, de même pour le son. Ce qui passe par les médias, parce que nous vivons dans une économie de l'attention, ce qui permet à ces médias de survivre économiquement, c'est justement d'attirer notre attention, ces médias multiplient les saillances. Et lorsqu'on analyse les phénomènes attentionnels, il me semble que c'est bien de se demander qu'est-ce qui fait effet de saillance ? Qui les a mises là, ces saillances ? À quelle fin ?
Et là, je pense aux algorithmes. À tous mes clics et mes recherches qui influencent ce qui se présente à mon attention. Difficile d'y échapper à ces saillances. Ce qu'Yves Citon nomme saillances sont des centres d'attention définis par des infrastructures, c'est-à-dire des appareils, des programmes, mais aussi ceux qui les financent et permettent aux informations et aux publicités de parvenir jusqu'à nous. Mais les saillances dépendent aussi d'infrastructures, c'est-à-dire de nos attentes.
Si je parle d'intrastructure, c'est pour dire que justement ce qui se construit dans ma tête est déterminé par ce qui m'arrive à travers ces infrastructures. Donc c'est un phénomène d'attention qui est lié aux attentes, et c'est intéressant qu'en français ce soit un mot quand même assez proche, ce à quoi on fait attention et ce qu'on attend. Et la citation que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert à travers vous, qui dit que ce que je vois cache quelque chose d'autre, c'est un petit peu de dire que nos attentes limitent ce que je pourrais voir là où je regarde les yeux, ou ce que je pourrais écouter dans l'univers sonore dans lequel je suis. Et ça, on le voit tous les jours lorsqu'on écoute, par exemple, quelqu'un parler. Si tout d'un coup, ce qu'il dit ou ce qu'elle dit commence à moins nous intéresser, eh ben on va faire attention à autre chose. On va voir qu'il y a des bruits d'oiseaux, on va voir qu'il y a des bruits de voitures, on va voir qu'il y a une soufflerie. Tous ces sons, ils sont là. Sauf que, en écoutant ce que dit une parole humaine, on occulte ces différentes choses.
Ce que je vois crée donc ce que je vois. Yves Citon reprend l'idée selon laquelle le capitalisme génère une crise permanente de l'attention au travers de nouvelles technologies qui séduisent nos attentions, mais aussi le discours qui leur reproche de les aliéner. Yves Citon pointe particulièrement l'accélération récente des communications et la mesure constante des données de l'attention des publics. Mais alors, comment séparer nos attentions de nos attentes si l'une et l'autre se conditionnent mutuellement ? Et c'est là qu'Yves Citon parle de curiosité.
Me semble de plus en plus intéressant, c'est de déplacer un petit peu le regard, de davantage parler de curiosité que d'attention. Il me semble que dans le monde actuel, l'attention est souvent, le thème de l'attention est souvent exploité par des agendas un petit peu nostalgiques, voire réactionnaires, qui ont une sorte de manichéisme. C'est bien d'être attentif et c'est mauvais d'être distrait, ce qui est vrai dans plein de cas. Mais que ce manichéisme, il me semble souvent un petit peu douteux, alors que si on essaye de réfléchir à des questions de curiosité, on peut poser en gros les mêmes problèmes, mais avec un décalage qui peut être intéressant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on appelle curiosité, d'habitude, c'est quelque chose qui viendrait de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est moi qui suis curieux d'apprendre telle ou telle chose sur mon voisin, sur ma voisine, sur le monde, sur la science, etc. Et donc là, on restreint un petit peu le champ sur ce qui viendrait d'un désir interne, et donc on passe au-delà, où on ne s'attarde pas autant à des phénomènes de captation de l'attention, d'aliénation, c'est forcément des images, comme je le disais tout à l'heure, des saillances qui nous aliènent. C'est très important d'étudier l'aliénation par les saillances, mais je crois qu'il ne faudrait pas perdre de vue qu'il y a quelque chose qui peut venir de nous. La curiosité, dans toute l'histoire, depuis Ève, depuis Pandore, ça a été souvent un vilain défaut Et on l'associe aux femmes, c'est pas pour rien que ce soit Ève, que ce soit Pandore. Elles veulent savoir des choses qu'elles ne devraient pas savoir. Ça se retourne au moment de la Renaissance et de ce qu'on appelle la science, où là, tout d'un coup, c'est les hommes qui ont une bonne curiosité pour essayer d'apprendre des choses. Et justement, ça vient d'eux. Il y a une sorte de pulsion ou de désir d'apprendre des choses qui ont quoi, en particulier, d'être curieuses, les choses elles-mêmes. Et ce qui me plaît beaucoup aussi dans la notion de curiosité, c'est qu'on dit à la fois qu'une personne est curieuse, elle veut savoir plein de trucs, mais qu'une chose, un objet est curieux. Et donc, il y a des choses qui sont curieuses. Et ce que je disais tout à l'heure sur les saillants, sur la captation, sur l'infrastructure, me semble qu'une bonne façon, non pas de s'en libérer, mais de réenvisager ça de façon plus émancipatrice, c'est de regarder les dynamiques ou les dialectiques de curiosité entre des personnes qui sont curieuses, mais aussi il y a des choses qui sont curieuses. Et d'avoir un désir pour ces choses curieuses, à savoir pour des choses dont on ne sait pas justement comment les juger. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est une opportunité? Les choses curieuses, ça peut mal tourner. Ça peut se révéler justement empoisonné ou mauvais ou funeste. Et de se dire qu'en plus de tout ce qu'on dit de l'attention, se rendre sensible aux choses curieuses, de cultiver cette curiosité pour les choses qui échappent à nos catégorisations, qui échappent justement à nos attentes, là, il y a quelque chose qui me semble intéressant.
D'ailleurs, je vous propose d'écouter Benjamin, élève de mes cours de yoga, que j'ai voulu interroger sur son rapport à l'attention, justement.
Je crois qu'il y a une dizaine d'années, je marchais dans une forêt en Angleterre tout seul. Il y a un endroit magnifique avec des arbres très très grands, des oiseaux, et à un moment je me suis senti totalement présent et en même temps connecté à cet endroit. Et j'ai l'impression d'être attentif, d'être présent, mais que l'endroit m'acceptait aussi. Je me suis dit là, waouh, là je suis vraiment dedans. Je fais partie de ce lieu, je fais partie de cet environnement. C'est dur à expliquer, mais il y a quand même ce fait d'être là et d'apprécier d'être là et d'être accepté aussi par un lieu. C'est ça aussi la présence peut-être. Je parle pas forcément du cosmos, hein, juste vraiment l'environnement immédiat, les arbres. Ça peut être une route, ça peut être à la boulangerie, en observant le pull de la nana qui est devant, et puis sentir l'odeur du pain, et, tiens, la qualité de la lumière, et être là avec les gens qui sont avec moi aussi. Dire, voilà, je partage ce moment avec tous ces gens-là. C'est en fait se rendre compte de la chance qu'on a, malgré les difficultés de la vie, la chance qu'on a d'être là où on est, où on est. C'est volontaire, ça vient pas toujours naturellement, mais c'est quelque chose qui est vraiment appréciable.
Je me dis que c'est une véritable rééducation que de déjouer nos attentes. Une discipline intérieure même. Une discipline qui nécessite un certain discernement quant aux objets de nos désirs, une capacité à gérer la frustration, une disponibilité d'esprit aussi. Et on est loin d'être égales, égaux, face à l'attention. L'injustice sociale se mesure-t-elle également à travers l'inégalité attentionnelle ? Notre attention est conditionnée par notre niveau économique et social. Car décider de mes lectures, m'offrir un séjour en forêt, mais aussi m'abonner aux accès premium de certaines plateformes pour m'épargner les publicités, sont des privilèges.
Les gens les moins favorisés parmi nous, ils n'ont pas tellement le choix d'acheter tous ces premiums, et de fait, on voit très bien que la publicité, cette espèce d'agression, de science qui, justement, vous font voir certaines choses et, de fait, rend plus difficile de voir autre chose, et bien que ça, c'est ciblé vers les gens déjà les plus pauvres de nos systèmes.
Aujourd'hui, des anthropologues et des chercheuses, Baptiste Morisot en tête, parlent de la nécessité de tourner notre attention vers le vivant. Mais qu'est-ce que cette orientation pourrait occulter si ce que je vois me cache ce que je ne vois pas ?
Là, moi, je reviendrai à ce mot d'infrastructure, à savoir que, aussi important que soit le vivant, et c'est très important, et on sait qu'on a saccagé tout ça, et qu'il faut absolument diminuer et arrêter autant que possible ce saccage, n'empêche que ce saccage, il est dû à des infrastructures qui ont été construites pour satisfaire nos besoins et qu'on ne va pas pouvoir simplement sortir de ces infrastructures et aller regarder ou écouter des petits oiseaux comme ça, qui n'est d'ailleurs pas ce que dit ni Morisot et tous les autres, ils ne sont pas du tout naïfs. On est nourris par ces infrastructures. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ce qu'ils nous disent, c'est très important, mérite d'être recontextualisé dans un soin qu'il faut prendre des infrastructures parce qu'on en dépend et en même temps un soin pour les démanteler telles qu'elles existent parce qu'elles pourrissent nos milieux de vie. Et s'il y a quelque chose qui peut me déranger dans la sensibilité au vivant, c'est pas du tout elle-même, c'est le fait qu'on en parle beaucoup et qu'on parle, à mon avis, trop peu de nos dépendances à ces infrastructures, et qu'elles sont quand même massives. Et donc cette dépendance-là, politiquement, socialement, elle est énorme, et il me semble qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est là où il faudra faire des changements radicaux.
Alors, à quoi devons-nous faire attention ?
Justement, il faut suivre sa curiosité, dans la mesure où sa curiosité, elle cherche justement à dépasser ce que quelqu'un comme moi peut dire qu'il faut faire, à créer des attentes, etc. Maintenant, ça serait de nouveau un monde un petit peu idéal, parce que de fait, nous devons faire davantage attention collectivement, forcément aux questions d'environnement, aux questions de la justice sociale, aux questions de montée d'infrastructures qui produisent de la haine. On voit bien quand même, si on prend un tout petit peu de distance, que ces guerres, elles ne tombent pas du ciel. C'est des dynamiques, hein, là aussi, des circularités, des récursivités qui font monter la haine des deux côtés. Et c'est ces montées de haine qui, je crois, sont en danger. Il y a toute une série de choses auxquelles faire attention, et là, faire attention au double sens, de regarder dans cette direction, mais aussi de faire gaffe.
Des difficultés pour se concentrer, chercher ses affaires plusieurs fois par jour, ressentir une agitation interne.
Attention à la marche, en descendant.
Vous avez été mis en attente.
Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît, notre train est arrêté en pleine voie pour votre sécurité. Merci de ne pas tenter de vous
répondre. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre.
La tension artérielle est le reflet de la pression du sang dans vos artères.
Attentif, ensemble.
Ces symptômes sont caractéristiques du trouble de l'attention.
Je vous propose un exercice qui va vous permettre de vous reconcentrer et de maintenir votre attention lorsque vous êtes au travail.
Avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle également TDAH.
L'attention et l'attente partagent la même étymologie. L'attention est une présence au présent, dans le fait de tourner son esprit vers ce qui est, vers ce qui advient. Est-ce que ce serait le propre de l'humain ? Ça, je ne suis pas certaine. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attention, comme le langage, est une capacité valorisée par l'humain. La philosophe Nathalie Depraz écrit dans « Attention et vigilance » ceci. « L'attention est une disposition individuelle qui traverse toutes les activités humaines, sociales, et qui fait du monde dans lequel nous évoluons une réalité qui nous importe, qui acquiert du sens à nos yeux. » Donc face à la multiplication des stimuli, comment prendre soin de l'attention ? Comment faire attention à l'attention ? Comment nourrir une attention réflexive ? Observer, s'absorber dans l'écoute, dans l'action, mais aussi être témoin de soi, de ses choix, de son état. Il y a de multiples façons d'être en attention, d'être attentive, attentif. La focalisation, la canalisation, la concentration, la méditation sont des voies possibles, mais on les entend bien souvent comme restrictives, sélectives, étroites peut-être, teintées de cette exigence scolaire à la concentration désincarnée. Or, moi je trouve qu'il y a de la sensualité dans l'expérience attentionnelle, méditative notamment. Et il y a dans l'attention quotidienne une dimension de réceptivité, d'ouverture, qui me sont vraiment précieuses. Et cela me fait penser à ma conversation avec Benjamin.
J'ai beaucoup de mal avec l'immobilité dans la méditation, c'est-à-dire être immobile et puis refermer les yeux et me concentrer sur mon intériorité, sur mes sentiments. Ça, c'est compliqué. Moi, ça va s'accompagner encore d'une observation ou d'un voyage à travers la lecture ou un film, ou d'observer le paysage. Ça ne me dérange pas d'être immobile si c'est pour observer. Mais là, il y a quand même une mobilité, parce qu'on bouge les yeux, on bouge la tête. C'est peut-être à prolonger le fait de se dire, bon, je fais un effort conscient de focaliser sur ma respiration. Mais bon, me connaissant, les fois où ça marche un peu, ça aussi, ça va être une forme d'évasion. C'est-à-dire que plutôt que d'intérioriser, ça va m'évoquer du vent qui passe dans une caverne, ou de la neige sur la montagne. Enfin, ça va devenir un voyage.
J'ai eu envie de discuter de l'attention avec Chloé Molia. Chloé est une artiste suspensive, comme elle se nomme. Elle se suspend à des lignes d'acier et observe ce que ça lui produit, cette action de tenir bon, sans filet. Au cœur de la suspension, Chloé place donc l'attention.
C'est un drôle de mot parce que juste là, comme ça, en le disant, ça m'évoque attention avec un A privatif et essayer de ne pas trop mettre de tension dans une situation qui en demande énormément. Le fait d'être suspendu au-dessus du vide, alors je peux travailler vraiment à 2 cm du sol, mais je peux travailler aussi à 6 mètres de haut, 8 mètres de haut. Et là, du coup, c'est autre chose. C'est vrai que si on est plein de tension, on ne peut pas tenir. Donc, il faut un peu d'attention avec ce A privatif. mais quand même un peu de tension aussi. Et puis, je peux évidemment l'entendre aussi ouais, sur l'attention. Et là encore, il y a même deux biais. Il y aurait faire attention et puis il y aurait être attentive. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose, je dirais. Faire attention, il y a vraiment il y a la volonté qui rentre en jeu. L'idée de tenir une forme d'attention, faire attention à soi, faire attention aux autres, faire attention à ce qu'on fait. Mais il y a un peu là-dedans pour moi une sorte d'énergie qui serait en lien avec bien se tenir. Être attentive, attentif, c'est une autre teinte. Il y a quelque chose qui émane, comme une sorte de principe vital qui est sollicité dans être attentif. Il y a comme quelque chose qui se soustrait ou qui dépasse, je ne sais pas si ça va vers le haut, vers le bas, ou s'il y a encore ces dimensions-là, mais qui sort en tout cas du plan de la volonté et qui va rejoindre peut-être un plan plus profond, qui est ce plan qui me semble d'une grande vitalité, qui est relié aussi à ce principe de gourmandise du monde, ce principe de curiosité, ce principe d'ouverture. Et après, alors, ce qui m'intéresse vraiment là-haut, en suspension, c'est que la situation de la suspension va générer, au plus tranquillement, un peu d'inquiétude, mais possiblement un peu de tension, des peurs, etc. Et tout ça, c'est des choses qui vont enclencher des fermetures à l'intérieur de soi. Ça va fermer les fléchisseurs, ça va créer justement de la tension, ça va bien serrer tout. Dès qu'il y a un peu de peur, le diaphragme qui se coince, la respiration qui se coince, enfin voilà, même avec très très peu, avec une chose très très infime, ça fait déjà ça. Et donc, bon, faire attention, on peut faire attention à ce que ça ne se produise pas ou le moins possible, ça faut beaucoup travailler. Par contre, dans être attentive, il y a quelque chose où ces tensions-là vont potentiellement arriver à se dissoudre un peu d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, on n'est plus occupé par le fait d'être là-haut, de tenir, on est occupé par ce à quoi le fait d'être là-haut nous ouvre. Et du coup, on va pouvoir transformer ce principe de fermeture lié aux peurs, à l'inquiétude, en un principe d'ouverture lié à une sorte de joie d'être vivant. C'est un mot mis un peu à toutes les sauces, mais d'être là, avec toutes les curiosités qui sont autant centripètes, dirigées vraiment vers l'intérieur du corps, des sensations, autant centrifuges. Et c'est encore des sensations, hein, des sons, la vision, du tactile, de l'air et tout, c'est encore des sensations du lointain. Ça pose tout ça, ces petits principes d'attention.
Gourmandise, curiosité du monde, les propos de Chloé m'évoquent ceux d'Yves Citon. Et ce rapport à l'attention comme curiosité.
C'est l'éros, en fait. C'est le goûtu, mais c'est aussi l'érotique au sens archétypal. C'est ce qui nous coule dans les veines et c'est ce qui fait que, alors qu'il y a la gravité qui nous écrase, on se met debout, quoi. C'est ce qui fait que les arbres poussent. Et c'est aussi ce qui fait, effectivement, se mouvoir les planètes, à savoir ces forces conjuguées de gravitation, enfin, centripètes, centrifuges, qui s'équilibrent vaguement, mais qui font que, en effet, on est relié à tout le reste, par cette force érotique. Il y a du désir, on est tissé de ça, je crois. C'est vrai qu'être attentif, attentif, c'est se relier à ce plan du désir, qui n'est pas du tout le plan du faire, pas du tout le plan du projet, de la décision. Être attentif, on ne réfléchit pas. C'est de l'ordre, effectivement, d'un élan, au sens où c'est quelque chose qui te sort de toi, qui te sort de ton centre, en te reliant.
Une pratique qui consiste très simplement juste à ne pas lâcher. Il y a une barre et puis il y a du vide en dessous et il s'agit de rester vivant, hein. C'est assez simple en fait. Il faut rester assez serein et en même temps être conscient qu'il s'agit d'être présent parce que ouvrir la main pas au bon moment serait néfaste.
Chloé rapproche la suspension de la question, cette situation même d'avant la réponse, d'impossible je sais pas, qui entraîne une forme d'inquiétude, qui serait plutôt un principe vital. Et comment cultive-t-elle cet état ?
Ce qui se muscle, c'est la concentration, ce qui est une phase un peu préalable qui m'a été précieuse, qui vise du coup à être en capacité un peu en tout cas de stabiliser son esprit quand il y a le petit vélo qui part partout, et qui part partout, on a l'impression que pas tant que ça. Mais en fait, quand on commence à être un peu attentif, on commence à voir à quel point on ne voyait pas comment on est dissous, mais alors dispatché. C'est dément ce qui se passe à l'intérieur. C'est à la fois musclé, mais à la fois, je veux dire, musclé, ça me réévoque quelque chose qui monte, alors que là, c'est musclé cette capacité à la stabilité. C'est-à-dire musclé cette capacité à que ça ne se fasse pas ou un peu à un rythme un peu moins énorme, quoi. Donc il y a cette phase-là, et puis après je dirais qu'une fois qu'on arrive à focaliser l'attention, bah, cette focalisation se dissout et on élargit le champ attentionnel dans toutes les directions. Et là on a du coup de nouveau cet effet de bulle en fait. Ces pratiques de l'attention, bah, moi j'ai reçu ça, hein, j'ai reçu ça par Jean-Michel Chaumet, Laurence Cortadellas, Nicole Di Ruggia, avec qui j'ai travaillé beaucoup et avec qui je continue à travailler, et qui ont vraiment cette approche sur ce principe d'attention qui pousse eux, et je trouve ça tellement juste, qui pousse vraiment à dire, mais en fait, l'autre nom, c'est la présence. Cette chose-là d'être présent, en fait, c'est énorme. C'est pas si donné. Donc, c'est pas du tout des pratiques qui visent à se couper du monde pour trouver une espèce de sagesse intérieure, je sais pas trop quoi. C'est au contraire des pratiques vraiment de reliance, de curiosité infinie pour tout, et qui, du coup, implique de mettre au silence certaines parts de soi. Pas tout, parce qu'on fait partie du monde, et la curiosité pour tout ce qui se passe à l'intérieur, elle est comme celle pour tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a celui qui commente en soi, lui, il faut lui dire « ta gueule ». Ça, c'est assez net, on va dire. Ça s'entraîne.
Comme on le disait avec Yves Citon, l'attention n'est pas que visuelle. Elle engage tous les sens. Être attentif, c'est une qualité de présence.
Dans l'entraînement, je dirais, on passe de quelque chose sur une dimension, concentration, à quelque chose sur deux dimensions, à un travail vraiment sur des volumes, et là, on touche à un endroit vraiment de l'attention. Le regard nous met vraiment dans la dimension sagittale, là, devant, derrière. Nos oreilles sont placées de manière à ouvrir la dimension côté-côté, même si on peut entendre tout autour de nous. Et le sens du toucher, comme on est sur la terre, la sensation première qu'on a, c'est celle du poids de notre corps. Et donc ça nous pose dans la direction au bas. Donc en ouvrant déjà ces trois sens, on a déjà une ouverture de l'espace. Mais effectivement, là, il s'agit de quitter la prééminence du regard.
Nicolas Nova, dans son ouvrage « Exercice d'observation », propose des façons d'exercer l'attention perceptive au monde. Une capacité cognitive qui s'apprend, se cultive et se nourrit, écrit-il. Certains, certaines le font déjà, sans même y penser, ni le nommer, ni en faire une philosophie de vie. L'apiculteurice, qui, prenant soin de ses ruches, prête toute son attention au comportement des abeilles, le ou la kinésithérapeute, qui écoute le corps de sa patiente, de son patient, comme le la réparatrice, qui désosse un grille-pain. Toutes et tous ont en commun de tenter de percevoir l'infra-ordinaire, ce qui se dérobe à nos régimes d'attention habituels. Je vous propose un petit exercice qui met en jeu la curiosité, l'observation, deux nuances d'attention. Exercice numéro 13, perturbation volontaire. Choisissez une situation normée du quotidien, une queue dans un magasin ou devant un distributeur, un repas collectif, une attente dans un ascenseur. Observez ce lieu de manière à saisir les manières de faire implicites qui y régissent les comportements routiniers et représentez-les par un diagramme. Et à partir de là, trouvez un moyen d'adopter une conduite déplacée. Par exemple, passer devant quelqu'un dans la queue, manger avec vos mains, avec une posture différente des personnes qui vous entourent, placez-vous le dos tourné dans l'ascenseur, regardez et écoutez les réactions alentour et réalisez ces perturbations plusieurs fois, en prenant des pauses entre deux interventions. Et ensuite documenter l'effet produit par ces façons d'enfreindre de manière répétée les conduites sociales routinières. Pour clore notre premier épisode, je vais citer encore Nicolas Nova. S'il est effectivement nécessaire de se rendre disponible à la marche du monde, l'important est surtout de savoir diriger ses sens, de faire varier les points de vue ou les dimensions de la situation considérée, et d'apprendre à repérer des détails avec précision. En d'autres termes, d'acquérir des stratégies et des tactiques. C'était « Être ressensible », épisode 1, l'attention, avec les propos de Yves Citon, philosophe, Chloé Molia, artiste suspensive, des témoignages de citoyennes et de citoyens et un exercice d'observation guidé par Mélanie Jouenne d'après Nicolas Nova. Musique de Laurent Barden et Tigre d'eau douce, feat Bertrand Belin, Oiseau. créations du collectif de La Turbine à retrouver sur le blog de laturbine.org, les plateformes d'écoute et notre radio partenaire Jet FM.
Si j'étais un oiseau.